VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 17h30 à Bamako, 18h30 à Niamey, 19h30 à Kinshasa. Bienvenue dans cette première édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, Bruno Tshibala a annoncé son nouveau gouvernement en RDC. Au moins 4 casques bleus tués et un disparu suite à l'attaque d'un convoi de l'ONU en Centrafrique. En Corée du Sud, Moon Jae-in a remporté la présidentielle. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, un nouveau gouvernement en RDC. Un mois après sa nomination, l'équipe de Bruno Tshibala a été dévoilée ce mardi 9 mai à Kinshasa. De nombreux ministres de l'équipe sortante ont été reconduits, mais aucun membre du rassemblement que dirige Félix Tshisekedi n'en fait partie. Les détails avec Thierry Kamundi de Top Congo, notre station partenaire à Kinshasa.
3 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 35 ministres et 11 vice-ministres pour une équipe de 58 personnes autour du premier ministre Bruno Tshibala. C'est un chiffre ce que l'on pourrait tenir d'entrée de ce gouvernement. Le deuxième enseignement, c'est la reconduction à près de 90% de l'équipe Badibanga. Les seules entrées sont les membres de l'aile du rassemblement que dirige Joseph Olenankoy. Léonard Cheikh Kitundu est maintenu aux affaires étrangères, Ramazani Shadari à l'intérieur et José Makila Soumanda comme vice-premier ministre en charge du transport. Au rang des ministres, Alexis Tambwe-Mamba conserve la justice comme ministre d'État. Modeste Baati-Doukwe-Bouva au plan et cède l'économie à un ancien collaborateur d'Étienne Tshisekedi, Joseph Kapita. Jean-Pierre Lissanga-Bonganga est lui nommé ministre d'État en charge des relations avec le Parlement et Michel Bongongo, un proche de Léon Kengouadondo, garde la fonction publique. Lambert Mende-Omalanga, l'indétrônable porte-parole du gouvernement, reste à la communication et médias. Thomas Louakalo-Senjola aux infrastructures et Mary Okunji au poste de télécommunications. Par contre, Freddy Matungulu, Roger Lumbala, Joseph Olenankoy et Raphaël Katebeka-Toto, le frère aîné de Moïse Katumbi-Chapwe, pressentis dans ce gouvernement en sont finalement les grands absents. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Sachez également que l'ONG Human Rights Watch a appelé aujourd'hui la communauté internationale à imposer de nouvelles sanctions contre les autorités congolaises, responsables selon elle de graves violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. En Centrafrique, 4 casques bleus ont été tués lors d'une attaque armée la nuit dernière contre un convoi de la MINUSCA dans la région de Bangassou, dans l'est du pays. 8 casques bleus ont été grièvement blessés. Nous retrouvons à Bangui notre correspondant Freeman Sipila.
L'attaque a eu lieu lundi soir aux environs de 20h à 20 km de Bangassou. Le convoi visé était en provenance de Rafai, une ville de l'est centrafricain. Les assaillants seraient des miliciens anti-Balaka, plus de 500. Ils auraient pris à partie les soldats de l'ONU face à leur refus de céder aux fouilles de leurs véhicules par les hommes armés. Selon les dernières informations, l'attaque a occasionné la mort d'au moins 4 casques bleus. 7 militaires marocains et un cambodgien grièvement blessés sont évacués à Bangui pour y recevoir des soins. Pour le moment, il reste un soldat porté disparu. La MINUSCA a envoyé un hélicoptère et des renforts pour sécuriser l'endroit. Ils ont fait des recherches afin de trouver celui qui manque encore à l'appel. À Bangui, aucune réaction officielle n'était encore enregistrée jusqu'en début de soirée. Cette attaque survient alors que la région de Bangassou est en proie depuis plusieurs jours à des attaques récurrentes des bandes armées. Situation qui inquiète aussi bien l'intérieur du pays que dans la capitale Bangui.
Merci beaucoup Freeman Sipila, vous étiez en direct de Bangui, en Centrafrique. Direction à présent le Nigeria, une des 200 lycéennes nigérianes de Chibok, enlevée par Boko Haram, a refusé d'être libérée dans un échange de prisonniers avec le groupe djihadiste nigérian. Selon le porte-parole de la présidence, la jeune lycéenne a dit être bien où elle se trouvait et qu'elle était désormais mariée. En Libye, 11 soldats combattants pour le maréchal Khalifa Haftar ont été tués et 55 autres blessés lors d'une offensive contre les derniers bastions des djihadistes à Benghazi, la deuxième ville du pays. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Les combats font rage depuis hier dans les quartiers d'Al-Sabri et du centre-ville de Benghazi, tombé en 2014 aux mains des membres présumés de l'organisation État islamique et d'Ansar al-Sharia, un groupe proche d'Al-Qaïda. L'ANL, l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar, livre une guerre sans relâche à ces groupes depuis ces trois dernières années et a réussi à prendre le contrôle d'une grande partie de la ville. D'après l'agence de presse loyale aux autorités de l'Est libyen, les forces pro-Haftar ont fait des avancées dans la zone de Sougal Out, où sont cernés les groupes terroristes dans leurs ultimes bastions. L'ANL affirme avoir pris le contrôle du port principal de Benghazi. Elle indique également avoir bombardé plusieurs positions des djihadistes, faisant de nombreux morts et blessés sans donner de bilan précis.
Toujours en Libye, entre 7000 et 8000 migrants originaires de l'Afrique subsaharienne sont actuellement détenus dans une vingtaine de centres de rétention sur le territoire libyen. Abdulrazak Al-Shniti, responsable de l'organe de lutte contre l'immigration clandestine, a précisé que la Libye dispose désormais de 42 centres de rétention, dont 23 fonctionnels. C'est l'OIM qui se charge de fournir de l'aide aux migrants dans les centres de rétention et qui coordonne avec les pays concernés le rapatriement de ces personnes. Nous reviendrons sur le drame des migrants méditerranéens dans notre partie magazine. Des missions surprises en Tunisie, à 7 mois des premières élections municipales de l'après-révolution. Le président de l'instance électorale tunisienne a démissionné aujourd'hui avec fracas. Personnalité respectée, Shafik Sarfar affirme qu'il ne peut plus travailler de manière, je le cite, impartiale et transparente. Cette annonce choc a pris de court l'ensemble du pays et a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un contexte politique et social tendu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. En Corée du Sud, Moon Jae-in, ancien avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, a confortablement remporté les élections présidentielles hier soir. Les précisions de John Linden.
Selon un sondage sorti des urnes, Moon Jae-in, le candidat du Parti démocratique de centre-gauche, est arrivé en tête avec 41,4% des voix. Il est suivi par le conservateur Hong Jong-pyo, issu du parti de la présidence déchue, qui n'a obtenu que 23,3%. Cette présidentielle anticipée, organisée sur fond de tensions avec le Nord, a été convoquée pour remplacer l'ancienne présidente, destituée suite à un énorme scandale de corruption. Ces résultats reflètent la colère des électeurs face à la corruption d'une partie de l'élite, face au coût élevé de la vie, à l'augmentation du chômage et au ralentissement de la croissance. Le futur président, âgé de 64 ans, est favorable au dialogue avec Pyongyang et souhaite aussi mettre plus de distance dans les relations entre Séoul et Washington.
Bataille de Raqqa en Syrie à présent. Les États-Unis vont associer la Turquie aux opérations militaires pour reprendre le bastion de l'organisation État islamique. Cette annonce, faite par le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, tranche avec la condamnation fin avril des frappes aériennes de la Turquie contre une milice kurde soutenue par les USA. Le général Mattis a précisé que les États-Unis n'envisagent pas une participation turque à l'offensive terrestre contre cette ville tenue par les djihadistes depuis plus de 2 ans. Dans le même temps, le Japon et la Suède ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir plus d'informations sur l'accord d'Astana, soutenu par la Russie, cet accord qui établit des zones de sécurité en Syrie. Cette réunion, qui devrait avoir lieu cette semaine, permettra d'aider les membres du Conseil de sécurité à décider s'ils accordent ou non leur soutien à ce plan. En France, les tractations vont bon train autour du nouveau président élu Emmanuel Macron, qui doit composer son gouvernement. L'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls a rallié La République En Marche, le parti de Macron, affirmant, je le cite, que le Parti socialiste est mort. Le défi d'Emmanuel Macron sera de rassembler suffisamment de personnalités issues de la droite et de la gauche modérée s'il veut parvenir à constituer une majorité parlementaire. Suite aux inondations au Québec, plus de 2 000 personnes ont été évacuées et relogées dans des centres d'accueil. 10 000 villes ont déclaré l'état d'urgence. Et puis ces chiffres, les grands patrons aux États-Unis ont gagné en moyenne 13,1 millions de dollars en 2016, soit 347 fois plus que leurs salariés de base. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et tout de suite, l'actualité de Économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'édition 2017 du Global Muslim Travel Index place le Maroc à la tête des destinations touristiques halal en Afrique. Le royaume chérifien présente l'offre la mieux adaptée aux besoins des voyageurs musulmans sur le continent. L'Égypte arrive en deuxième position devant la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Soudan, Djibouti et les Comores. La Gambie ferme la barre des 10 pays africains. Le marché du tourisme halal devrait continuer à croître rapidement durant les prochaines années. En 2016, il représentait 155 milliards de dollars et devrait avoisiner les 220 milliards de dollars d'ici 2020. La compagnie Équerre, opérant à partir de Brazzaville, reprend du service dans les prochaines semaines et desservira Pointe-Noire, l'Afrique centrale à Douala et Libreville, l'Afrique de l'Ouest, Dakar, Bamako et Cotonou. Un cadre de cette compagnie a aussi annoncé un partenariat avec Ethiopian Airlines en matière technique et de formation des équipages. Enfin, la Zambie, en voie de rénover son réseau routier rural dans 10 provinces, ce projet permettra de désenclaver plus de 3,5 millions de personnes vivant en milieu rural, coupé du réseau routier national, ce qui complique les échanges commerciaux des produits agricoles. Lusaka recevra de la Banque mondiale 200 millions de dollars pour financer ce projet.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Et nous parlons foot bien sûr, avec la demi-finale retour de la Ligue des Champions.
Juventus de Turin contre Monaco, la Juve qui ne perd pas contre les clubs français et la Juve qui n'a plus perdu depuis 20 mois sur sa pelouse. Il faudrait un véritable exploit de la part des Monégasques pour arriver à se qualifier pour cette finale de la Ligue des Champions. Réponse tout à l'heure, le coup d'envoi, c'est à 18h45, temps universel.
Et demain, le Real est presque déjà qualifié.
Vainqueur 3-0 au match aller la semaine dernière, le Real, 11 fois vainqueur de la Ligue des Champions, a déjà battu l'Atlético lors des finales des éditions 2014 et 2016. Et après leur succès à l'aller 3-0, les Madrilènes, qui semblent bien partis pour se qualifier aux dépens des Colchoneros, ce sera demain.
Match amical pour le Cameroun.
La Colombie affrontera le Cameroun en match amical. Ce sera le 13 juin à Madrid avant l'ultime série de matchs de qualification au Mondial 2018. Annonce de la Fédération colombienne de football. La sélection colombienne emmenée par l'Argentin José Pekerman qui doit affronter l'Espagne le 7 juin à Murcie. Du côté du Cameroun, champion d'Afrique en titre, deuxième du groupe B de ses qualifications à 4 points du Nigeria après 2 matchs. Dans le tournoi de qualification africain, on rappelle que seul le meilleur de chaque groupe est qualifié pour le Mondial.
JO 2024, bientôt le grand oral pour Los Angeles.
À 4 mois de la désignation de la ville qui organisera les Jeux Olympiques 2024, Los Angeles et Paris vont recevoir cette semaine la visite de la commission d'évaluation du CIO. C'est la métropole californienne qui ouvre le bal en présentant à partir de mercredi son projet sans risque. Les responsables de LA 2024 croient avoir une candidature qui peut redéfinir l'histoire olympique en réponse au surcoût budgétaire des précédents JO et à la frilosité croissante des gouvernements illustrée par la défection de Hambourg, Boston, Rome et Budapest dans la course aux Jeux 2024.
Et bien sûr, quelques nouvelles de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Golden State Warriors poursuivent sans faiblir sur le sentier de la gloire à l'image de Stephen Curry, auteur hier soir de 30 points. Les Warriors ont balayé une quatrième fois d'affilée le Utah Jazz, 121-95. Ils décrochent leur finale pour la conférence Ouest. Leur prochain adversaire s'appellera San Antonio ou Houston, qui s'affrontent toujours dans la série de victoires chacune entre les deux équipes. Eh bien, les Rockets ou les Spurs peuvent s'inquiéter puisque les Warriors n'ont toujours pas perdu le moindre match lors des playoffs cette saison.
Merci Nicolas. Toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, place désormais au dossier du jour. Nouveau gouvernement en RDC, nous vous l'annoncions en première partie de ce journal. Le président Joseph Kabila et le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala ont signé un décret publiant une liste de 59 membres du gouvernement devant conduire le pays aux élections en décembre 2017. L'UDPS et l'aile du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi boycottent la nouvelle équipe gouvernementale et exigent le poste du Premier ministre. Eddy Sango a joint à Bruxelles le président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalouira.
Monsieur Kabila a épuisé ses deux mandats. Son parlement a aussi expiré depuis le 17 février 2017. Et par conséquent, l'évidence est là, nous sommes en face d'un vide du pouvoir. Et ce qui est important aujourd'hui pour redonner l'espoir social et économique et aussi la paix au peuple congolais, c'est d'aller à une transition sans M. Kabila.
Ce gouvernement est publié à la suite de la signature de l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre.
Un accord qui ne rencontre pas la volonté des Congolais, un accord qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution, et un accord qui, par ailleurs, a apporté beaucoup plus de conflits qu'on en a résolu. C'est un accord qui a plutôt été porteur des germes des conflits, tout simplement parce que cet accord est en flagrante contradiction avec la Constitution et avec tous les Congolais. Donc, ici, les Congolais n'ont pas besoin de voir M. Kabila pour se mettre à un spectacle de gouvernement qui ne dure pas. Vous voyez celui de Badibang qui a terminé sans avoir jamais tenu un seul conseil des ministres. Les Congolais n'ont pas besoin que M. Kabila les empiffre de corruption des masses en utilisant l'argent de l'État. Les Congolais ont besoin d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance d'éthique morale, une gouvernance d'éthique politique, ce qui n'est pas le cas.
Mais cette question a été réglée avec les dialogues tenus sous la médiation des évêques.
Vous parlez des évêques, d'ailleurs les évêques eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils soient dans l'idée de ce fameux gouvernement d'aujourd'hui. Nous sommes en face d'un banditisme d'État. En réalité, le Congo n'a ni président de la République, ni parlement. Le Congo n'a aucune institution. Et ce qu'ils viennent se faire, c'est un coup d'État supplémentaire. Par conséquent, ils n'ont aucun pouvoir de prendre un quelconque décret ou d'engager la République démocratique du Congo. Et même les récentes révélations sur la corruption d'une société israélienne pour mener le lobbying visant à maintenir M. Kabila au pouvoir, c'est aussi un crime économique, passible de poursuites judiciaires. Et ça sera fait dès la fin de M. Kabila, dans quelques jours. Donc c'est un gouvernement qui ne fera rien, qui ne va pas travailler, tout simplement parce qu'il ne répond pas aux attentes des Congolais.
Mais ce gouvernement a pour objectif d'organiser les élections selon l'accord avant la fin de 2017 pour qu'on revienne à la normale.
Il est démagogique, il est malsain de penser qu'en 7 mois, on peut tenir une quelconque élection dans un pays aussi grand comme le nôtre.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française face à l'extrême droite. Pendant sa campagne, le futur locataire de l'Elysée n'a pas précisé quelle politique africaine il mènerait. Il y aura sans doute des priorités, économie, immigration, sécurité. L'Afrique peut-elle attendre quelque chose de ce jeune président? Sera-t-il en rupture avec l'héritage de la France-Afrique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, camp universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Burkina, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui lève le monopole qu'exerçait depuis longtemps sur la production d'électricité la Sonabel, la Société nationale d'électricité du pays. Est-ce le début de la fin des délestages de Ouagadougou? Quelques éléments de réponse avec notre correspondant sur place, Zoumana Wanogo.
par ces temps de chaleur caniculaire au Faso, où la température oscille entre 40 et 45 degrés, la hantie des Burkinabés a pour nom de lestage. Alors, comment a-t-on accueilli la loi sur la libéralisation de la production énergétique au Faso? Suivons des avis.
Nous qui sommes dans le domaine de la restauration, on a beaucoup de pertes quand il y a les coupures de courant. On ne peut plus conserver le yaourt comme on veut, les sandwichs, les biscuits qu'on vend. Dès qu'il y a les coupures, tout ce que compose trouve la loi très bonne. Donc, on souhaite que soit mis en œuvre rapidement.
Le délestage au Burkina Faso, le courant se coupe, ça dure, ça prend du temps et ensuite, il y a l'eau qui suit. Donc, quand j'ai entendu une loi votée pour libéraliser le secteur de l'électricité, je suis vraiment content. Je félicite le gouvernement pour cette loi.
Pour nous, les blanchisseurs, les gens amènent des avis. Pour les passer, il n'y a pas le courant, on ne peut pas travailler. Mais si les privés ajoutent les sonnabelles, ça nous arrange seulement. En tout cas, cette loi-là, ça, c'est bon. Si on doit prendre les privés là, ajouter, c'est ça qui est bien avec nous. Ça nous arrange. En tout cas, le délestage là, ça nous fatigue seulement. Ça ne nous permet pas de travailler.
In concreto, que dit la loi? Écoutons le ministre de l'énergie, Alpha Omar Dissa.
La première innovation importante, c'est la suppression de la segmentation pour permettre l'installation de producteurs indépendants d'électricité sur toute l'étendue du territoire. Le producteur indépendant produit verse à la Sonabel les taxes de transport et quand l'énergie arrive à destination, le client éligible a son énergie pour ses besoins. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont la possibilité de pouvoir avoir sur leur toit des mini centrales solaires. Des gens qui ont la possibilité aujourd'hui parce qu'ils ont installé des groupes pour leur propre consommation. Et ils ont un surplus qui est là, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Aujourd'hui, la loi permet donc à ces autoproducteurs-là de vendre leur surplus donc à la Sonabel tant que ça ne dépasse pas 30% de la production. Nous avons le monopole du réseau de transport qui est réservé à la Sonabel. Nous avons dit c'est bon de pouvoir donc ouvrir la production, mais le réseau de transport, nous avons dit, doit rester entre les mains de l'État parce que c'est l'État qui a sa politique d'extension du réseau. C'est un processus que nous avons mis en place qui va aboutir forcément à la diminution du kilowattheure. Nous oscillons entre 130 et 150 francs comme coût de production du kilowattheure. Avec le solaire aujourd'hui, nous pouvons produire à moins de 70 francs.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM. Au large de la Libye, près de 200 personnes sont toujours portées disparues suite au naufrage de deux embarcations de fortune qui tentaient de rejoindre l'Europe. Près de 8000 migrants sont actuellement dans les centres de rétention et l'Organisation pour les migrations internationales, l'OIM, les aide dans l'organisation de leur retour dans leur pays d'origine. Pour un état des lieux, Solange Niamoulissa a joint Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
Ces migrants dont on parle et qu'on dit qu'ils sont portés disparus, bien évidemment, pour la plupart, malheureusement, on ne retrouvera jamais les corps. Il s'agit de statistiques qui sont basées sur les témoignages des rescapés et nous savons que ces 200 morts sont probablement disparus à jamais. Cette véritable crise humanitaire qui se déroule sous nos yeux en Méditerranée, il faut rappeler que depuis le début de l'année, ce sont près de 50 000 personnes qui sont arrivées en Europe et dont la majorité en Italie. Ça représente une véritable augmentation par rapport à la même période l'année dernière, aussi bien en nombre d'arrivées qu'en nombre de morts, avec plus de 1300 personnes qui ont perdu la vie depuis le 1er janvier.
Aujourd'hui, on parle de 7000 à 8000 migrants retenus dans les centres de détention en Libye. Combien des migrants sont retournés depuis le début de l'année et combien sont sur la liste d'attente?
Écoutez, vous savez, l'OIM estime à entre 500 000 et 700 000 les migrants qui sont présents en Libye actuellement, depuis le début de la crise. Bien évidemment, toutes ces personnes ne sont pas des migrants potentiels en partance pour l'Europe, c'est évident, mais beaucoup sont coincés dans ces centres de détention. Pour nous, il est fondamental de pouvoir offrir une alternative à toutes ces personnes qui sont bloquées dans le pays, qui ne veulent pas prendre le risque de traverser la Méditerranée et qui n'ont plus les moyens, aussi bien physiques que financiers, de repartir chez eux. C'est pourquoi l'OIM organise une assistance au retour volontaire, et dans le cas de la Libye, il s'agit davantage de retours humanitaires pour tous ceux des migrants en Libye qui désireraient repartir chez eux. Depuis le début de l'année, nous avons aidé l'aide au retour de quelques centaines de migrants, essentiellement d'Afrique de l'Ouest.
Quelle est la situation de ces migrants dans les centres de détention ?
Les conditions de vie dans ces centres de détention sont parfois alarmantes, c'est vrai. L'OIM a eu accès à quelques-uns de ces centres. Bien évidemment, la situation dépend aussi de la stabilisation politique et sécuritaire du pays. Et nous travaillons main dans la main avec le gouvernement libyen reconnu pour pouvoir améliorer ces situations-là. Mais entre-temps, nous essayons de procéder à un maximum de retours humanitaires possibles.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans le cadre de son projet de développement à l'international, la NBA va ouvrir sa 6e Académie mondiale au Sénégal. Ce premier centre de la NBA en Afrique sera mis en place grâce au partenariat avec le Seed Project de Thiès. Cette académie sénégalaise de basketball a permis l'éclosion de nombreux talents. Plusieurs joueurs internationaux en sont issus, comme Gorgui Dieng, pivot des Minnesota Timberwolves. Et c'est justement à l'occasion du 19e anniversaire du Seed, fêté le week-end dernier, que la NBA Academy Africa a posé ses premiers jalons. De Dakar, le reportage de notre correspondant Sedina Abagay.
Plusieurs jeunes venus d'un peu partout d'Afrique ont participé à la première phase de détection de la NBA Academy Africa. L'occasion pour Amadou Garofal, vice-président de la NBA Afrique, d'expliquer le choix porté sur le Sénégal.
Ce qui détermine ce choix, c'est la qualité du partenaire que nous pouvons avoir sur le terrain. Par exemple, en Australie, le partenariat avec l'Australian Institute of Sport. Et ici, comme on a eu à mener beaucoup d'activités sur le terrain, il y a une longue histoire entre le Sénégal et la NBA. Il y a une dizaine de joueurs du Sénégal qui ont joué à NBA. C'est juste un partenariat naturel entre la NBA et Seed.
Gorgui Dieng, joueur NBA et pivot de Minnesota, se félicite de l'installation de la NBA Academy au Sénégal et espère que ce centre sera le grenier du basketball africain.
NBA Africa.
L'implantation de la NBA Academy Afrique au Sénégal est une excellente chose. Il n'y en a que 6 dans le monde, alors si le Sénégal est choisi pour en abriter un, ça doit être un honneur. Une fierté pour nous tous. Je pense que ça va aider les jeunes du Sénégal et de l'Afrique entière à avoir une bonne préparation pour éventuellement intégrer la NBA.
Au-delà de l'aspect sportif, l'éducation aura une place de choix dans la formation. Jean-Jacques Conceição, cette fois champion d'Afrique avec l'Angola, espère que ce centre servira aussi à former de futurs cadres africains.
Pour aider d'abord les jeunes à connaître le basket et à vouloir aussi étudier parce que l'école c'est le plus important, c'est le numéro un de tout parce que l'étude tu le gardes toute ta vie. Le basket, tu ne peux pas la garder toute ta vie, mais l'étude c'est le plus important, c'est les études. CED, la fondation CED, ils sont là pour aider, pour faire tout, de donner des opportunités aux jeunes d'aller plus loin.
Le journaliste sénégalais Ahmadou Bamba Kassé estime que la NBA Academy Africa augmentera la compétitivité du basketball africain et la qualité des ressources humaines chargées de la formation.
Le fait que le centre soit ici boostera certainement les jeunes sénégalais qui voudront certainement intégrer ce centre et du centre.
NBA Academy Africa est la matérialisation du projet de la Ligue américaine de basketball pour le développement de la discipline sur le continent. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Zineb Abdourahman. Au micro, Clément Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. On maintient la conversation sur notre page Facebook où vous likez, réagissez et commentez toutes les actualités. Restez avec nous tout de suite après un nouveau journal. Retrouvez notre émission interactive, À votre avis, présentée par John Lindon. Une émission consacrée aujourd'hui à l'avenir des relations entre l'Afrique et la France après l'élection d'Emmanuel Macron. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.